RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter les magazines culturels, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Argentine apprécie l'échange du programme de radiodiffusion de RRI » puis le consul général de Singapour à Medan a terminé son mandat à Medan. L'Indonésie et les Pays-Bas conviennent d'une coopération en matière de cybersécurité. L'exposition sur les matières premières de l'industrie alimentaire et des boissons de 46 pays s'est tenue en octobre. La Croix-Rouge indonésienne, ou PMI, encourage la coopération de la préparation logistique pour faire face aux catastrophes naturelles. Voici le journal complet. L'ambassadeur de la République d'Argentine en Indonésie, Ricardo Luis Bocalandro, a exprimé jeudi à Jakarta sa reconnaissance pour le lancement du programme d'échange sur Radio République Indonésie. Ricardo Luis a déclaré que le programme de radio est devenu l'un des moyens d'encourager la diplomatie publique et de connecter les gens du monde entier. Selon lui, la radio est l'un des médias que le peuple argentin compte pour l'information. Par conséquent, il soutient le lancement du programme d'échange de RRI pour augmenter la diplomatie publique dans la communauté.
This is a tool. I've just taken
Je viens de savoir que ce programme est un outil pour envoyer des programmes de diffusion à mon pays et à d'autres pays. Et bien sûr, la radio était très importante dans le passé, mais peut encore être l'outil de communication le plus fort dans mon pays. Les programmes de radio sont répandus en Argentine. Tout le monde écoute la radio dans la voiture en travaillant. Vous attendez les commentaires des gens. Vous regardez, vous travaillez, vous écoutez et les commentaires des gens. Donc, avoir la possibilité de partager du contenu de radio comme celui-ci à travers ce programme pourrait être une excellente idée. L'ambassadeur Ricardo Luis a également exprimé son intérêt à tirer parti des possibilités de coopération entre RRI et l'Argentine à travers des programmes d'échange de radiodiffusion. Broadcast Program Exchange sur Radio République Indonésie est un système basé sur le web qui permet à RRI de partager du contenu diffusé sous forme d'échanges d'information. Le chef de la section de la coopération de RRI, Weni Zulianti, a déclaré que l'échange d'informations facilitera la coopération entre RRI et les radios du monde entier. Jusqu'à présent, 4 pays ont signé une coopération avec RRI pour le partage d'informations, à savoir la Russie, la Thaïlande, le Brunei Darussalam et la Malaisie. Le consul général de Singapour à Medan, Mark Low, a terminé son mandat de 6 ans à Medan. Il a été remplacé par le consul général Richard Gross. Dans son discours, Mark Low a déclaré jeudi à Medan que pendant de 6 ans à Medan, il a vu le développement dans cette ville, en particulier l'aéroport. Il est optimiste que Richard Gross a des idées et des moyens afin d'améliorer la coopération entre Singapour et le nord de Sumatra. Mark Low retournera à Singapour, puis sera le consul général de Singapour à Batam. Pour moi, c'est un très agréable pendant 6 ans à Medan. Avec le nouveau consul général, Richard apportera de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire les choses pour améliorer les relations. Ibnu Sri Hutomo, l'assistant au développement économique de la province du Sumatra du Nord, représentant le gouverneur de Sumatra du Nord, a remercié pour les bonnes relations qui étaient développées par le gouvernement de Singapour avec le gouvernement et le peuple du nord de Sumatra. Il est optimiste que les relations s'amélioreront à l'avenir. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de cyber et des codes, ou BSSN, a signé une lettre d'intention dans le domaine de la cyber-coopération avec le gouvernement néerlandais. La signature a été faite par le président de BSSN, Joko Setiadi, et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stefanus Abraham Blok, mardi le 3 juillet au ministère indonésien des Affaires étrangères, Jakarta. Dans un communiqué de presse avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre néerlandais des Affaires étrangères a déclaré que la coopération en matière de sécurité de cyber entre l'Indonésie et les Pays-Bas était un moyen d'augmenter les capacités et les échanges d'expériences entre les deux pays. Aujourd'hui, nous signons également la lettre d'intention avec l'Indonésie concernant la cybersécurité. Nous avons convenu de lancer le cyberdialogue bilatéral pour discuter des moyens d'améliorer les capacités et de partager notre expérience en matière de cyberlégislation et de protection des infrastructures cyber vitales. La coopération en matière de cybersécurité entre l'Indonésie et les Pays-Bas est une condition importante pour faire face aux différents défis de l'ère numérique. Cette coopération équivaut à fournir des avantages pour les deux pays. Dans ce cas, l'Indonésie a non seulement reçu une assistance unilatérale du gouvernement néerlandais. L'Indonésie a l'occasion de transmettre ce que l'Indonésie a dans le domaine de la cybersécurité en tant qu'outil de développement des capacités, des ressources humaines dans le domaine de la cybersécurité dans les deux pays. L'exposition sur les matières premières de l'industrie alimentaire et des boissons des ingrédients alimentaires en Asie 2018 se tiendra du 3 au 5 octobre 2018 à J-Expo Kemayoran, Jakarta. L'organisateur du groupe directeur du groupe ASEAN UBM d'Asie ou Thaïlande, Rungpeh Chitanuat, à Jakarta, a déclaré que sa partie était fière de ramener F1 Asia en Indonésie. Il a dit que les participants qui étaient présents venaient de 46 pays dans le monde. Il a mentionné que FI Asia 2018 serait assisté par 750 participants provenant des industries locales, régionales et internationales de l'alimentation et des boissons de divers secteurs. Les visiteurs de cette exposition ont atteint 20 000 personnes proviennent de professionnels de l'industrie alimentaire et des boissons. Pendant ce temps, Adi Lukman, président de l'Association des entrepreneurs en alimentation et en boissons d'Indonésie, a déclaré que la position de l'industrie des aliments et des boissons en Indonésie était stratégique par rapport aux participants d'autres pays. La Croix-Rouge indonésienne, ou PMI, renforce l'engagement de la coopération de la préparation logistique pour faire face à la réponse d'urgence des catastrophes naturelles, entre autres en encourageant l'augmentation de la capacité logistique de l'Association de la Croix-Rouge de pays amis. Par conséquent, le siège du PMI ou Croix-Rouge préparera le programme de renforcement des capacités logistiques de PMI dans les prochains jours. Cette activité sera assistée par les associations nationales de la Croix-Rouge des pays amis, entre autres la Croix-Rouge suisse, la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge néo-zélandaise, la Croix-Rouge danoise et le représentant de la zone IFRC Asia-Pacifique et le représentant de l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Tia Kuniawan, le chef du bureau central de l'infrastructure du PMI ou Croix-Rouge, a déclaré jeudi 5 juin que son parti a obtenu des engagements de soutien. Tia Kuniawan, le chef du bureau central de l'infrastructure du PMI ou Croix-Rouge, a déclaré jeudi que son parti a obtenu des engagements de soutien pour augmenter la capacité logistique de plusieurs associations nationales de pays amis. Il y a un effort mutuel pour renforcer l'engagement de cette coopération de soutien pour intégrer et consolider le potentiel de soutien logistique face à la catastrophe.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les nouvelles de l'Indonésie. les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Gianyar, Bali. Trois bébés tigres de Sumatra sont nés au zoo de Bali, au village Singapadu, Gianyar, Bali, et ont maintenant 2 mois. Emma Christiana Chandra, responsable des relations publiques au zoo de Bali, à Gianyar, a déclaré mercredi que la naissance de l'animal soutiendra les efforts de conservation du tigre de Sumatra. Le responsable de zoo a dû attendre que les 3 tigres soient âgés de 2 mois avant d'être annoncés au public car il est encore sous surveillance intensive par l'équipe médicale locale. Les 3 bébés tigres grandissent en bonne santé avec le sexe de 2 mâles et 1 femelle. La naissance des 3 bébés tigres de Sumatra a été la première à Bali par un parent femelle nommé Chang, âgé de 5 ans, et un homme nommé Pandeka, âgé de 3,5 ans. Avec l'addition de la nouvelle famille du tigre de Sumatra, le nombre de collections dans le zoo de Bali atteint actuellement 5 tigres. Selon les données des institutions internationales de conservation de la nature, le nombre actuel de tigres de Sumatra est moins de 400 en Indonésie. Ensuite, l'info de Kupang, Nusa Tenggara Est. Un certain nombre de pêcheurs au village Halapaji, en région Sabu Raijua, exécutent le rituel coutumier pour enterrer la carcasse de baleine de l'espèce de sperme qui est échouée sur la côte du village. Selon le chef du BKKPN de la région Sabu Raijua, Ikram Sangaji, jeudi, en prévision des funérailles, la communauté du village a tenu un rituel coutumier en lisant des prières coutumiers menées par les chefs traditionnels de la région. Il a expliqué, les gens au village ont tenu un rituel coutumier parce qu'ils jugent que les baleines échouées sont leurs ancêtres. La dernière info vient de Cianjur, Jawa West. Le bureau de l'environnement de Cianjur, Jawa West, demande à tous les employés du bureau de transporter les ordures chaque fois qu'ils partent pour le travail en tant que mouvement vital pour éliminer les déchets à leur place. Le chef du bureau de l'environnement Cianjur, Akos Koswara, a déclaré jeudi qu'il avait publié le programme afin d'illustrer aux citoyens l'importance de l'élimination des déchets à sa place. Le programme est obligé d'apporter les déchets est un test de sensibilisation aux déchets et nouvellement appliqué dans l'environnement du Bureau de l'environnement. En cas de succès, cette règle s'appliquera à toutes les agences et bureaux. Elle a expliqué que moins d'attention des résidents d'éliminer les déchets à leur place a un impact sur l'environnement. Les ordures éparpillées sur le bord de la route, si elles ne sont pas nettoyées, provoqueront des inondations. Par conséquent, tous les employés de bureau de l'environnement sont obligés de transporter les ordures chaque fois qu'ils partent pour le travail et les ramasse au bureau. Ainsi, ils ne jettent pas les ordures autour de leur lieu d'habitation. Le Bureau de l'environnement prépare actuellement des installations et des infrastructures pour l'élimination des déchets dans l'espoir que plus de poubelles dans les espaces ouverts et les lieux publics, la sensibilisation des citoyens augmente également. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 7 juillet. Nous commençons par l'incident du port Marco Polo, marquant le début de la bataille entre la Chine et le Japon. La deuxième bataille entre la Chine et le Japon, du 7 juillet 1937 au 9 septembre 1945, fut une bataille majeure avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. La plus grande bataille asiatique du XXe siècle a été le résultat d'une politique impérialiste japonaise pendant quelques décennies. Le Japon a l'intention de dominer la Chine politiquement et militairement pour sauvegarder les vastes réserves de matières premières et de ressources naturelles de la Chine. Ensuite, l'événement de l'indépendance des îles Solomon. Le 7 juillet 1978, les îles Solomon, situées dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont accédé à l'indépendance. Les îles ont été habitées pendant 1000 ans avant le Christ et les Européens y ont mis les pieds pour la première fois en 1567. En 1885, l'Allemagne a revendiqué les îles Solomon comme ses colonies. Mais une décennie plus tard, les Britanniques occupent l'archipel et en font un protectorat. Après la Seconde Guerre mondiale, le peuple de Solomon se leva pour se battre pour son indépendance jusqu'à son indépendance en 1978. La majorité de la population de Solomon vient de l'ethnie mélanésienne. Le dernier, la ville Londres, a été secouée par des bombardements. Le 7 juillet 2005, alors que Londres a célébré sa nomination en tant qu'organisateur olympique de 2012 et le sommet du G8 en Écosse, quatre explosions consécutives ont secoué le transport de Londres. Trois explosions se sont produites dans un métro et dans un bus dans le centre de Londres. Il est estimé qu'environ 56 personnes sont mortes dans la calamité survenue le matin, heure locale, pendant les heures pleines. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en petit titre, coopérant avec l'entreprise privée et l'université, le ministère de l'Industrie mène la recherche de la technologie de voitures électriques. Le ministère de l'Industrie s'associe à Toyota Indonesia et six universités d'État pour mener conjointement des recherches et étudier de manière approfondie sur le passage de la technologie des véhicules électriques dans le pays. Les résultats de cette recherche aideront le gouvernement à mettre en œuvre la politique de développement des véhicules électriques. Le gouvernement s'efforce actuellement à encourager l'utilisation d'une technologie automobile respectueuse de l'environnement à travers le programme Low Carbon Emission Vehicle, LCEV. Il est prévu que l'objectif de 20% pour la production de véhicules à faible émission de carbone, LCEV, en 2025 puisse être atteint. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, à l'occasion de Kick-off Electrified Vehicle Comprehensive Study à Jakarta, mercredi 4 juillet. Selon Erlangga, l'objectif est indissociable de l'engagement du gouvernement indonésien à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 29% en 2030, tout en maintenant la sécurité de l'énergie, en particulier dans le secteur du transport terrestre. En outre, jusqu'à présent, l'industrie automobile a contribué de manière significative à l'économie nationale. La répartition des tâches entre les 6 universités d'État sera divisée en 2 étapes. Dans la première phase, la recherche sera menée avec l'Institut de technologie de Bandung, ITB, l'Université Gadjah Mada, UGM, et l'Université Indonesia, UI. Ensuite, la deuxième étape, avec l'Université 11 Mars, UNS, l'Institut de technologie 10 novembre, ITS, et l'Université Udayana. Selon le ministre Erlangga, l'implication des universités dans cette recherche ne peut être dissociée de leur participation active et de leur participation au développement des véhicules à moteur électrique et de leurs composants dans le pays. Par exemple, sous la forme de composants logiciels et de matériel, y compris les batteries, les moteurs électriques, les unités de commande de puissance, au système de station de charge. Les véhicules électriques utilisés dans cette recherche sont des hybrides et hybrides rechargeables qui seront comparés aux véhicules conventionnels qui utilisent une technologie de moteur avancé. Cependant, Warih Andang Cahyono, président directeur de Toyota Motor Manufacturing Indonesia, société anonyme, a déclaré qu'il soutient les activités de recherche et les études conjointes initialisées par le ministère de l'Industrie. Son entreprise fournit un soutien sous la forme de fournir des outils tels que des véhicules, des enregistreurs de données, des chargeurs et d'autres aides qui peuvent être utilisées par les chercheurs des universités en Indonésie. Warih espère que son soutien peut aider à cartographier la condition et les besoins réels des clients, y compris la préparation et les défis dans les industries en développement et l'infrastructure des véhicules d'électrification en Indonésie, comme indiqué par le ministère de l'Industrie. Chers amis, c'était mon Indonésie.
You're as bright as the sun. Win is earth.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonjour à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici Le Magazine Culturel et en beau titre, Le Rituel de Baharagu. La représentation culturelle de Kalimantan intitulée Banjar Festival 2018 a eu lieu du 29 juin au 1er juillet dans le quartier de l'Hôtel Indonesia à Jakarta. Le festival se déroule pendant 3 jours à présenter divers culturels et artistiques de Banjar et Dayak Meratus. La spécificité d'origine Banjar, comme les danses, la cuisine traditionnelle, même les bateaux des marchés flottants qui existent en plusieurs points Banjarmasin, Kalimantan du Sud, a également été présentée. Parmi les attractions qui ont été apparues, il y a eu quelque chose d'inhabituel, à savoir la sortie des Dayak de leur environnement. Elle a pratiqué le rituel Baharagu, un rituel traditionnel de méditation traditionnelle de Dayak lié à la croyance et les esprits ancestraux. Le groupe ethnique Dayak à Kalimantan a généralement un rituel de guérison appelé la cérémonie Balian, ou par les gens de Dayak Paramasan sont plus souvent appelés Baharagu. Baharagu est un rituel pour le traitement des malades. La guérison est obtenue par la demande Balian ou Guru Jaya, chef tribu, à Dieu par certains rituels, de sorte que le donneur de la maladie disparaisse bientôt des gens qui sont malades. Pour ce rituel, il est nécessaire de préparer du porridge et des gâteaux colorés, des boissons au café, des œufs et des objets en métal comme l'argent ancien. D'autres accessoires de rituel Baharagu sont les jeunes feuilles de cocotier Hanau. La pointe de la nervure médiane est attachée et accrochée au toit de la maison et l'autre pointe de la nervure médiane sont laissées démêlées. Lorsque le rituel a lieu, le malade est couché devant la famille. Ensuite, le balayan priera et convoquera les esprits des ancêtres et des dieux et effectuera la récitation du mantra Swamamang accompagné de tambours. Après avoir effectué le rituel, le patient va subir une période de berpamantang qui signifie aucune activité de jour et une nuit. À ce moment, le patient est interdit de faire des activités à l'extérieur de la maison. Le rituel de Baharagu a lieu au premier jour du Festival d'Ayak 2018. A été vu par les ambassadeurs et le grand public. La communauté est très enthousiaste à regarder ce rituel, car il n'a jamais été montré et est rarement connu du public. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre, l'expédition du café Nusantara. À la fin du XVIIe siècle, le VOC a apporté des graines de café de Malabar en Indonésie. Les plantures de café ont ensuite été plantées à Jakarta, mais ont échoué à cause de l'inondation. À l'an 1700, la plantation de café a été faite et cela a fonctionné. Mais le succès n'est pas longtemps ressenti. Les attaques des milias Vastatrix au 19e siècle sont devenues la plus grande catastrophe de l'histoire de café Nusantara. Apparemment, la maladie de la rouille des feuilles a finalement donné naissance à une nouvelle richesse qui captive le monde. The Heaven of Coffee, un paradis du café, est maintenant intégré comme l'identité de ce pays, l'Indonésie. Pour maintenir cette identité et afin de mieux introduire et commercialiser la variante de café indonésienne, en particulier le café de Papouasie, la communauté du café et du tourisme soutenue par le Conseil du café de l'Indonésie, DECOPI, Association Sales Travel Indonesia ASATI et Indonesia Diaspora Network, IDN, SME Export Empowerment and Development a organisé une activité de l'expédition du café Nusantara qui débutera à Wamena, Papua du 8 au 20 août 2018. L'initiateur de cette activité est l'ancien ministre de l'Agriculture Anton Apriantono et l'ancien ambassadeur de l'Indonésie en Colombie Nini Satmojo. Selon Anton Apriantono, président du programme et président du Conseil du café d'Indonésie DECOPI, l'expédition de café Nusantara sera un moyen de documenter la diversité du café indonésien ainsi que l'imagerie du tourisme d'exotisme du café et le tourisme autour de la plantation de café. Le café en Indonésie est principalement connu par deux espèces, à savoir Arabica et Robusta. Les principales zones de production du meilleur café en Indonésie pour l'Arabica est Aceh Gayo, Aceh Sangkal, Benar Meriah et Gayo Luas, Sumatera Nord, Lintong Nihuta, Mandailing et Sidikalang, Java Sangkal, Temanggung et Ungaran, Java West, Mongpuntang, Malabar et Garut, Java East, Malang, Jember et Jampit, Flores, Bajawa et Manggarai, Sulawesi, Toraja et Kalosi, Nrekang, La Papouasie, Wamena et Bali, Kintamani. Les producteurs de café robusta se trouvent à Lampung, Lampung Sangkal, Lampung West et Tanggamus, Bengkulu et Sumatra Sud. Nini Satmojo a expliqué que la diversité des cultures de café indonésienne d'Aceh à la Papouasie est l'avantage du café indonésien par rapport du café des pays producteurs de café dans le monde, comme la Colombie et le Brésil. L'expédition en Papouasie sera commencée avec le lancement du programme d'escalade élevé de drapeaux rouge et blanc au sommet Trikora lors du 73e jour de l'indépendance le 17 août 2018, dirigé par deux grimpeuses indonésiennes, Mila Ayu Haryanti et Shelfie Nidia Neyman. La visite touristique à la plantation de café à Wamena et la participation au Festival du Valais Baliem 2018 en invitant une communauté d'amateurs de café de la maison et de l'étranger. L'expédition s'est poursuivie dans 11 régions productrices de café en Indonésie, Sulawesi, Flores, Bali, Java East, Java Sangkal, Java West, Lampung, Sumatra Sud, Jambi, Sumatra Nord et Aceh. Parallèlement à cela, on fait aussi la collecte des données pour l'écriture du livre The Journey of Indonesian Coffee. Le chef d'œuvre du café indonésien de Wamena à Takengon et la documentation photo et vidéo à la plantation de café Wamena Papua. Ira Damayanti, vice-président de Diaspora Network, Diaspora USA, concepteur d'idées et rédacteur de programmes de livres et vidéos documentaires, a expliqué que ce livre et le vidéo documentaire The Journey of Indonesian Coffee est devenu le moyen le plus efficace de promouvoir et de commercialiser le café indonésien aux quatre coins du monde, avec le rôle des représentants indonésiens à l'étranger, l'ambassade, le consulat et ITPC, en synergie avec la communauté de l'Indonésie, Diaspora Network, dispersée dans le monde entier. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. par quel moyen écoutez-vous la voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Chers amis, la Voix de l'Indonésie organise un nouveau quiz international 2018. Les gagnants seront invités à visiter l'un des sites touristiques en Indonésie en septembre 2018. Pour savoir plus les informations du quiz, écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée en streaming sur www.voinews.id ou sur l'application RRI Play. La Voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tout le monde. On se rencontre encore avec moi, Tiwi, dans le magazine musical de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Aujourd'hui, on va vous présenter un groupe de musique d'Indonésie s'appelle Kotak. Écoutons d'abord la chanson dont le titre est Masih Ada.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Ku gila, hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti, celaka bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, Masih ada aku.
Voilà la chanson sans titre Masih ada ou toujours là, chantée par Kotak. Cette chanson parle d'une relation amoureuse qui s'est échouée. Mais malheureusement, même s'il a essayé d'aimer les autres, l'amour pour le premier est toujours très fort dans le cœur. La force de l'amour restant dans le cœur lui a aussi donné envie de revenir à son ex. La chanson a été publiée par le groupe Kotak le 4 mai 2018. Les paroles de cette chanson ont également prouvé que le groupe Kotak est toujours là et existe toujours dans la musique indonésienne. Chers auditeurs, la chanson suivante à écouter s'intitule Perfect Love.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia. Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.